toutes et à tous. Vendredi 19 décembre, nous sommes en direct sur Radio BLV et Radio des Boutières et en live sur YouTube. C'est une émission spéciale enregistrée en public depuis la médiathèque La Passerelle à Bourg-les-Valences à l'occasion de l'événement Informé sans enfermer spécial LGBT-phobie organisé par Radio BLV avec le soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. On remercie la médiathèque La Passerelle de Valence Roman Aglo pour l'accueil généreux. C'est Selva à l'animation, Clément et Florian Blanchard à la technique son et images. Bienvenue sur cette table ronde. Médias, quelle pratique pour des représentations justes et inclusives. Regard croisé, France, Belgique, Suisse. La liberté d'informer et d'être informé est un pilier de la démocratie. Pour permettre l'expression d'une multitude de courants de pensée et d'opinions. Les médias sont le quatrième pouvoir, ils servent de contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un rôle d'équilibre et parfois d'opposition face aux trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Depuis 1791, le droit à une information libre est d'ailleurs inscrit dans la Constitution française. Les médias peuvent être un contre-pouvoir à l'État, oui, mais se pose de plus en plus la question du contre-pouvoir au capitalisme marchand avec l'extrême droitisation des médias. On va parler sur cette table ronde d'une information libre de discrimination et en particulier de discrimination LGBT-phobe et de comment rendre cette liberté possible. Pour échanger en long, en large et surtout de travers, nous sommes très heureuses d'accueillir quatre associations européennes qui agissent pour l'égalité et la diversité dans les médias. Avec l'AJL, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, en la présence de Laura Touni, sa coprésidente, qui est aussi rédactrice en chef adjointe du site Le Monde. Bonjour Laura.
Bonjour.
Avec Décadré, une association de Suisse romande qui est en visio, avec Noémie Schorer, qui en est sa responsable, responsable du projet de sensibilisation des médias aux thématiques LGBTIQ+. Avec Média Animation, donc une association de Belgique francophone, en la présence de Chloé Tranfou, qui est sa chargée de mission en éducation aux médias. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Et avec SOS Homophobie, en la présence de Hugo Faure, délégué territorial Dauphiné-Alpes-Nord pour les départements Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Merci pour le changement de micro, Laetitia. J'éteins l'autre pour éviter tout problème de l'Arsen. Hop. On va débuter notre table ronde avec l'AJL. Laura, c'est quoi l'AJL? Quelle est sa genèse et quelles sont ses missions?
Oui, bonjour, merci beaucoup. Et déjà, un grand merci pour l'invitation et pour ce bel événement. Donc, l'AJL, l'association des journalistes LGBTQIA+, qui a été rebaptisée ainsi en 2024, a été créée en 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était alors dans un contexte de débat autour du mariage pour tous, débat qui a commencé en 2012, et un contexte de traitement désastreux par certains médias de cette actualité. On a alors vu des chaînes d'infos en continu qui étaient branchées en direct sur le flux vidéo d'un mouvement ultra-conservateur qui s'appelait alors la Manif pour tous et qui s'opposait au mariage pour tous et véhiculait des idées homophobes et racistes. Des propos de cette nature ont été alors diffusés sans maîtrise de l'antenne sur certains médias. Des journalistes LGBTQIA+ ont été écartés du traitement de ces questions dans leur rédaction au motif que ces personnes étaient concernées. Un collectif de journalistes s'est alors dit « Et si on crée une association ?» pour pouvoir arrêter un petit peu cette catastrophe journalistique. Il y a eu une tribune qui a été alors publiée dans Libé pour promouvoir la création d'une association des journalistes LGBTQIA+, française, afin d'œuvrer à un meilleur traitement de ces questions dans les médias. Donc ça fait maintenant 12 ans que l'association travaille sur ces questions. À travers plusieurs prismes, ce travail de pédagogie passe à travers des formations en école de journalisme que l'on réalise un petit peu partout en France grâce à nos bénévoles. Ça passe aussi par des conférences, des tables rondes comme aujourd'hui. Ça passe par des publications sur nos réseaux sociaux où nous réalisons aussi de la veille médiatique, par une newsletter mensuelle qui va mettre en avant des bons traitements journalistiques des questions LGBTQIA+ et pointer les moins bons traitements, par des communiqués de presse qu'on envoie aussi aux médias, à nos confrères consoeurs, et par des échanges en direct que l'on réalise parfois avec des rédactions pour voilà, leur signaler certains traitements qui ne seraient pas suffisamment judicieux et qui ne rejoindraient pas le langage non discriminant que nous on prône. Et des événements. On réalise aussi des événements.
Oui,
tous les ans.
Tout récemment d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On pourra y revenir plus tard.
Donc oui, la GL fait des signalements à l'ARCOM et vous interpellez aussi les médias. Là, tout récemment, dans les dernières actualités par rapport à votre rôle de soutien aux journalistes LGBTQIA+, vous êtes aussi associé à d'autres associations qui œuvrent pour l'égalité et la diversité dans les médias en France. Je pense à l'Association des journalistes antiracistes et racisés, la JAR, à Prenons la Une, PLU, et Profession Pigiste, PP. Vous avez signé ensemble une tribune concernant des règles discriminatoires de la commission de la carte d'identité des journalistes pro, la carte de presse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, tout à fait. Donc, les journalistes, pour travailler, ont ce qu'on appelle une carte de presse qui est remise par la CCIJP. Cette commission demande aux journalistes voilés d'enlever leur voile sur la photo de leur carte de presse. Ce qui est une humiliation, ce qui est une atteinte à la dignité et ce qui ne correspond pas à la façon dont ces journalistes exercent. C'est-à-dire que lorsqu'une journaliste voilée se rend par exemple sur une manifestation, qu'elle doit présenter sa carte de presse à un policier, le policier va lui demander de se découvrir pour que son visage corresponde à ce qu'il y a sur sa carte de presse. Or, c'est une atteinte à la dignité de la personne que de lui demander de se découvrir. D'ailleurs, la défenseuse des droits a publié dans son avis du 4 décembre un avis sur les discriminations vis-à-vis des personnes musulmanes en France et a montré que, par exemple, il n'était pas normal de demander à des étudiantes de se dévoiler pour leur carte d'étudiante et dit que l'on peut faire le même parallèle pour la carte de presse. C'est-à-dire que c'est exactement le même principe. À l'université, on a le droit de porter le voile. Dans son exercice de journaliste sur le terrain, on a le droit de porter le voile. On est dans un pays laïque, c'est-à-dire que chacun peut exercer sa religion. Et la CCIJP demande à ses journalistes de se dévoiler sur leur carte. Par ailleurs, la CCIJP refuse également aux journalistes transgenres et ou non-binaires. Non-binaire, ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent ni tout à fait dans le masculin, ni tout à fait dans le féminin. Transgenre, ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Ces personnes, on leur demande de mettre ce qu'on appelle leur nom de naissance ou dead name sur leur carte de presse. Or, ces personnes, elles exercent sous leur nom qu'elles ont choisi après leur transition, ou au moment de leur transition de genre. Donc moi, j'ai des collègues qui travaillent sous un nom, c'est leur nom commun, c'est leur nom d'usage, et elles se retrouvent sur le terrain avec une carte de presse qui ne correspond pas à ce nom. Donc ça les met en situation de danger, par exemple, parce que ça va les outer, ça veut dire que ça va montrer au grand public que ces personnes sont transgenres. Donc déjà, dans un environnement qui peut être parfois hostile, par exemple, on enquête sur l'extrême droite, on enquête sur une manifestation fasciste, etc. D'un seul coup, on se retrouve à révéler en quelque sorte que l'on est trans, donc cela peut vous mettre en danger. Et en plus, c'est aussi une forme de mégenrage, c'est-à-dire qu'on est appelé par un prénom dans lequel on ne se reconnaît plus, ce qui est une violence à l'égard des personnes. Ça a été montré par la littérature scientifique et psychologique que ça exerce une violence quotidienne sur ces personnes. Et la CCIJP, malgré notre tribune, malgré nos tentative de dialogue, n'a pas souhaité donner suite. Récemment, nous avons eu donc cet avis de la défenseure des droits qui nous rejoint et défenseurs des droits qui avaient d'ailleurs dès 2020 demandé que les personnes trans puissent avoir leur nom d'usage sur leur carte de presse. La défenseur des droits, c'est quand même un organisme qui pèse en France, qui a son importance. Eh bien, la CCIJP ne veut toujours pas changer de posture par rapport à ça.
Alors, donc la JL a réalisé plusieurs études de traitement médiatique. En 2017, vous avez réalisé une étude sur 5 talk shows sur les chaînes TMC, CNews, France 2, France 5, C8, qui font le buzz sur le dos des minorités. En 2020, vous avez produit une étude sur les propos sexistes dans l'émission Les Grosses Têtes sur la radio RTL. Les personnes qui étaient en formation ce matin avec nous dans la rotonde, on a pu voir un petit peu les tenants et aboutissants de cette étude. Et donc vous avez aussi réalisé une étude sur le traitement médiatique de la procréation médicalement assistée. En 2023, une autre étude sur le traitement médiatique des transidentités. Et il y a un an tout pile, le 19 décembre, vous avez également publié une étude sur le traitement médiatique de l'affaire Palmade. En février 2023, sous l'emprise de stupéfiants, l'humoriste Pierre Palmade provoque un accident de la route pour lequel il sera jugé coupable de blessures involontaires aggravées et condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Pourquoi l'AJL, l'association des journalistes LGBTQIA+, s'est intéressée au traitement médiatique de cette affaire ?
En fait, lors de ce fait divers, parce que les médias ont parlé d'affaires, mais en vérité, c'est un fait divers. Et si la personne concernée n'avait pas été aussi connue, ce fait divers serait un petit peu passé à l'as très, très, très rapidement, parce qu'on en voit tous les jours des accidents de la route mortels, malheureusement. Ce fait divers a donné lieu à vraiment un étalage de propos homophobes et stigmatisant vis-à-vis des usagers du chemsex. Le chemsex, c'est une pratique que l'on retrouve beaucoup dans le milieu gay, qui consiste à avoir des rapports sexuels sous l'emprise de certaines drogues. Et donc, il y a eu une avalanche de propos stigmatisants, extrêmement homophobes, des heures entières de débats où l'on allait s'apesantir sur la vie sexuelle de cet acteur, des détails extrêmement intimes, stigmatiser son éventuel usage de drogue. Alors que son orientation sexuelle n'avait rien à voir avec le fait divers en question, l'accident de la route. Et du point de vue de l'usage de drogue, ont été invités sur des plateaux des personnes qui n'étaient absolument pas expertes de cet usage. Donc c'était la foire au grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on allait trouver des personnes qui avaient un lien plus ou moins éloigné avec la question de la drogue. Et puis, on allait les inviter et leur demander de tenir des propos de comptoir sur ce qui s'est passé. Donc, ça nous a interpellés. Et nous avons donc épluché des heures et des heures d'émissions télévisées. On avait pris l'exemple de BFM TV et des pages du Parisien. Sur 4 semaines de couverture, allant du 10 février au 10 mars 2023, on a analysé 30 heures et 50 minutes de magazine BFM TV et 70 articles publiés par Le Parisien.
La JL a édité un kit informé sans discriminer. Vous intervenez aussi dans les établissements d'enseignement et de formation et en particulier dans les écoles de journalisme. Est-ce que les préjugés et les stéréotypes sont systématiquement abordés dans les écoles de journalisme ?
Si on ne vient pas, non. non, c'est très, très, très rare que les modules des écoles prévoient de s'y pencher en France tant que la JL n'intervient pas. Après, on a été aussi agréablement surprise dans certaines écoles qui avaient des référentes sur les discriminations. Ça existe et je dirais même de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne chose pour parler à la fois de racisme, de LGBT-phobie, mais aussi de validisme, c'est-à-dire les discriminations vis-à-vis des personnes handicapées. Ça émerge petit à petit, mais c'est encore très, très rare.
Alors justement, est-ce que vous arrivez à entrer dans toutes les écoles de journalisme, même à l'École supérieure de journalisme de Paris. On en profite pour rappeler aux auditorices que cette école a été rachetée par un consortium d'entrepreneurs et grands médias français proches de la droite et de l'extrême droite française, dont Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Sadé. Donc, est-ce que vous arrivez à rentrer dans toutes les écoles ?
Alors, on n'est pas en contact avec l'ESJ Paris. Pour l'instant, on n'a pas de demande, ni on a tenté récemment de faire des formations dans cette école. Mais du reste, on a quand même un très bon relationnel avec les écoles en général en France, qui sont assez ravies de nous accueillir. Déjà parce que souvent, ces formations sont financées par la DILCRA, dont tu parlais tout à l'heure, la délégation interministérielle à la lutte contre les discriminations, l'antisémitisme et les LGBT-phobies. Donc, quand c'est gratuit, elles sont contentes. c'est plus compliqué quand on leur demande de financer les formations. Et puis, ce sont des sujets que les enseignants ne maîtrisent pas forcément, donc ça leur plaît plutôt qu'on intervienne, et les échanges sont assez riches.
Alors justement, comment les élèves de ces écoles de journalisme accueillent vos interventions ?
Vraiment bien. C'est extrêmement bien reçu lorsqu'on intervient. Souvent, les étudiantes sont beaucoup plus en pointe que leurs enseignants sur beaucoup de questions. On s'intéresse notamment au vocabulaire respectueux pour parler des personnes LGBTI, comment trouver des sources fiables. En fait, on leur apprend surtout à appliquer les principes du journalisme aux questions LGBTI de la même façon qu'on les appliquerait à n'importe quelle question. Car l'on constate souvent un relâchement sur les questions LGBTI par rapport à d'autres questions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus laxiste parfois dans la façon dont sont abordées ces questions. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut juste appliquer la même déontologie, la vérification des sources, le choix de vos interlocutrices, le choix d'un vocabulaire exact, rigoureux, etc. Sur ces questions. Donc c'est vraiment bien reçu par les étudiantes. Bon, très rarement, on a des personnes qui sont un peu plus réfractaires, mais c'est vraiment rare. Et on fait des cas pratiques ensemble, on fait des exercices, et en général, ça leur plaît bien, quoi.
En juillet 2024, il y a un collectif de 1000 artistes drag qui a signé une tribune « Artistes drag de France, nous incarnons une rébellion nécessaire face au fascisme ». Yel dénonce un climat délétère avec des annulations de shows ou de lectures drag sous la pression LGBT-phobe, auquel s'ajoutent des humiliations dans les médias, des violences verbales en ligne, dans la rue, qui va de pair avec une panique morale qui est entretenue par les médias autour autour des enfants trans. Alors justement, il y a deux semaines, la GIEL a d'ailleurs organisé une table ronde sur les enfants victimes et instruments de panique morale réactionnaire. Laura, si on ne suit pas les médias de Bolloré, ou de manière générale, si on n'est pas au courant de cette histoire, brièvement, c'est quoi cette panique morale ?
Alors, déjà, définissons un petit peu les paniques morales. Il s'agit d'un emballement médiatique qui peut être propagé sur les réseaux sociaux autour d'une question, par exemple sociétale, qui d'un seul coup va prendre une ampleur phénoménale, alors que ce fait de société n'a pas forcément la même ampleur que ce que les médias ou les propagateurs, on va dire, concernés veulent lui donner. Donc, par exemple, sur les drag shows, il va y avoir des rumeurs selon lesquelles ces personnes viendraient réaliser des lectures qui seraient sexualisées auprès des enfants. Or, lorsque l'on s'intéresse aux artistes drag, il faut bien savoir que les artistes drag adaptent leur contenu à leur public de la même façon que des auteuristes de bandes dessinées, enfin les personnes à viser en tout cas, ou réalisateuristes de films adaptent leur contenu à leur cible. Donc un artiste de drag qui vient lire des contes à des enfants, eh bien il lit un conte, et c'est quelque chose de tout à fait non sexualisé, tout à fait neutre, etc. Et cette personne peut faire des shows pour les adultes avec un contenu qui va être peut-être plus explicite parfois, mais ça n'est pas destiné aux enfants. Donc une panique morale, ça va être l'idée selon laquelle d'un seul coup, ces personnes vont venir cibler des enfants de manière sexuelle, ou bien ça va être l'idée selon laquelle il y aurait une épidémie de transidentité, là je mets des guillemets que vous ne voyez pas à la radio, une épidémie de transidentité. Or, les transidentités concernent une part extrêmement minime de la population. Ce qui a changé, c'est la visibilité des personnes qui d'un seul coup disent « moi je ne veux plus être invisibilisée, je ne veux plus que l'on nie mon existence et je veux avoir droit à une existence digne, je veux avoir le droit d'exister ». Et d'un seul coup, on a une panique morale issue de ces forces conservatrices, de l'extrême droite, qui sont parfois des héritiers de la Manif pour tous dont on parlait tout à l'heure, qui vont venir focaliser ses craintes sur les enfants. Le fait de parler des enfants, c'est une façon assez commune, on va dire, de manipuler les esprits, entre guillemets. Parce que tout le monde veut protéger les enfants. Tout le monde veut protéger ses enfants. Donc, lorsque l'on agite ce chiffon rouge, d'un seul coup, on perd une forme de raison. On perd une forme de rigueur intellectuelle. Lorsque des entités, des associations qui se présentent parfois sous de fausses bannières, c'est-à-dire qui ne présentent pas leurs accointances, par exemple, avec Éric Zemmour et qui viennent juste à la sortie des écoles distribuer des flyers. Lorsque ces associations agitent le chiffon rouge de la protection des enfants, on perd sa rigueur intellectuelle et on n'écoute pas bien ce qu'on nous dit en face, à savoir vos enseignants, lorsqu'ils vont faire des modules EVARS, c'est-à-dire d'enseignement à la sexualité à l'école, à l'éducation sexuelle, on va leur parler de choses beaucoup trop avancées pour leur âge, ou alors on va les convertir aux transidentités. Bien évidemment, tout ça, ce sont des rumeurs. L'éducation sexuelle à l'école, elle est adaptée à l'âge des enfants. On ne parle pas de la même chose à un enfant de 6 ans qu'à un adolescent ou une adolescente. Ça, les enseignants qui le font en classe le savent très bien. Mais d'un seul coup, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ça prend un effet boule de neige. C'est ce qu'on appelle la panique morale. Par exemple, un parent d'élève qui va dire « moi, mon enfant, on lui a dit qu'il fallait apprendre à se masturber à l'école », ce qui est totalement faux. Mais ça va devenir viral sur un réseau social comme TikTok, et d'un seul coup, ça devient un événement, et d'un seul coup, on a des professeurs qui sont menacés, voire menacés de mort. Ça prend des proportions qui sont extrêmement dangereuses.
Donc c'est une table ronde que vous pouvez retrouver, qui a été enregistrée, elle est à disposition en ligne sur la chaîne YouTube de la JL. On va faire une petite pause musicale avec le titre Lemon Boy de Cave Town et nous nous retrouvons dans 4 minutes avec Chloé Trenfou, chargée de mission en éducation aux médias de l'association belge Média Animation. There once was a bittersweet man and they called him Lemon Boy. He was growing in my garden and I pulled him out by his hair like a weed. And like weeds do, he only came and grew back again. So I figured this time I might as well let him be. Lemon boy and me started to get along together. I helped him plant his seed. Rub off on me. You think smelling like lemon zest would be pretty neat? I found out that my friends are more of the savory type, and they weren't too keen on compromising with a nice lemon pie. So lemon boy. The clouds run out of rain. What if Lemon Boy won't grow no longer?
What if peaches drive sugar cane? Oh, well, rainbow stars to peach themselves. Tortoise shells tear away from their spines. It happens all the time. It happens all the time. Lemon boy and I were gonna live forever. Like Snufkin and Little Mai, we'll get around wherever. Lemon boy and I were gonna live forever. Like Snufkin and Little Mai, we'll get around wherever. It's actually pretty easy.
Vous êtes toujours en direct sur Radio BLV 93.6 et sur Radio des Boutières, une émission spéciale depuis la médiathèque La Passerelle. Vous venez d'écouter Lemon Boy de Cave Town. Alors si vous avez envie d'aller faire un coucou à Média Animation, Cave Town sera en concert à Bruxelles le dimanche 22 mars dans la salle Ancienne Belgique. Sinon, vous pouvez toujours aller voir Cave Town à Paris le 3 avril dans la salle Élysée Montmartre. Nous sommes toujours avec Laura Touny, coprésidente de l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, et Chloé Tranfou de l'association belge Média Animation qui nous rejoint au micro.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Tu viens d'animer ce matin une formation auprès de bénévoles et de salariés de Radio Associative d'Auvergne-Rhône-Alpes. On en profite pour saluer la Fédération Aura FM et les radios qui ont participé à la formation ce matin. Radio Royan, Radio BLV, Radio A dans la Drôme, Radio B dans l'Ain, Radio Dio dans la Loire, Radio d'ici, Radio des Boutières et Déclic Radio en Ardèche. Donc c'était une formation pour explorer les enjeux liés au traitement médiatique des thématiques LGBTQIA+.
Moi j'étais très, très stimulée en tout cas par les retours et les échanges qu'il y a eu dans les groupes. Donc j'ai beaucoup parlé, mais vous avez aussi parlé et échangé, je pense, des réalités de terrain qui sont différentes mais qui peuvent inspirer en fonction des contextes. Et voilà, nous c'est ce qu'on aime bien voir, c'est en effet comment les structures peuvent traduire en tout cas en quelque sorte les points d'attention qu'on énonce sur le traitement médiatique des thématiques LGBTQIA+. Quoi. Voilà.
Donc, alors justement, qu'est-ce que Média Animation d'abord et comment Média Animation agit-elle pour une meilleure représentation de la société dans les médias?
Donc Média Animation, c'est une association d'éducation aux médias et on s'inscrit dans la plupart du temps donc dans une démarche d'éducation populaire, ou en Belgique on dit éducation permanente, et on accompagne des citoyens et citoyennes dans le développement d'un regard critique, un regard curieux et responsable en tout cas vis-à-vis de l'univers médiatique qui nous entoure. Et donc on organise des ateliers, des formations, on produit des publications et des outils pédagogiques pour analyser l'information, analyser les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la publicité et apprendre à créer des contenus qui soient porteurs en tout cas de valeurs que nous défendons.
Oui, d'ailleurs, enseignantes et enseignants, professionnels jeunesse qui nous écoutez, on vous invite vraiment à parcourir le site internet de Média Animation. Vous y trouverez plein d'analyses, d'études et surtout plein de ressources pédagogiques sur plein de thématiques. Et, comment se porte le paysage médiatique belge du côté des discriminations ?
On a sensiblement des préoccupations qui sont parfois du même acabit qu'en France, notamment... Quand on pense à la montée en puissance d'idées d'extrême droite et de rhétorique transphobe, ça c'est des choses qu'on note aussi malheureusement dans le paysage médiatique belge, même si ça peut être moins médiatisé ou moins violent parfois. Parce qu'en Belgique, on a quand même un cordon sanitaire un peu plus efficace qu'en France, je pense, dans les médias. Donc le cordon sanitaire, c'est un dispositif qui en Belgique prend la forme de législation. Hein, donc il y a des décrets qui instaurent un cordon sanitaire politique et médiatique qui demande en effet aux médias de ne pas inviter l'extrême droite. En tout cas, si l'extrême droite a la parole dans les médias, c'est de façon différée. Donc elle ne prend pas la parole en direct pour qu'on puisse fact-checker tout ce qui est dit avant. Voilà. Donc ça, c'est un peu les conditions belges, on va dire, du cordon sanitaire, mais qui s'effritent petit à petit avec 30 ans d'histoire. Résistera-t-il aux assauts de l'extrême droite actuelle, quoi. Donc ça, c'est un peu l'incertitude. Mais donc on voit les choses évoluer aussi dans ce sens-là. Et oui, il y a aussi pas mal aussi d'initiatives pour la diversité qui restent là, des émissions, des radios, des podcasts qui rendent le paysage médiatique beaucoup plus diversifié, mais voilà, avec des enjeux propres au pays aussi.
Alors, vous avez donc Média Animation a édité une brochure qu'on a fait circuler ce matin et qui va être un peu distribuée, dispatchée dans différentes radios associatives qui sont dans le coin. Donc, une brochure qui s'appelle LGBTphobie, médias et société, que vous avez réalisée avec Prism, Fédération Wallonne LGBTQIA+, à l'initiative du service public audiovisuel belge, la RTBF, il faut quand même le souligner. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette brochure et quelle a été la démarche derrière ?
Oui, donc cette brochure s'inscrit en effet dans des commandes que la RTBF, donc la télévision publique belge, nous fait depuis 2018, je pense. Donc dans un intérêt de développer plus de réflexion sur la diversité des médias que la RTBF gère. La demande était d'outiller vraiment les journalistes et les productrices de médias à avoir un regard plus affûté sur le traitement médiatique des minorités. Donc on a commencé par un volume sur le sexisme, ça s'appelle donc « Sexisme, médias et société ». Et puis l'année suivante, on s'est attaqué au racisme, et puis au LGBTphobie, et dernièrement donc au validisme, donc une discrimination envers les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ce volume s'inscrit dans cette volonté de fournir des outils concrets, fournir des exemples médiatiques sur lesquels desquels on peut s'inspirer ou desquels on peut se dire qu'il faut pas faire pareil, quoi. Donc c'est un petit volet de catastrophe médiatique que vous pouvez, en petit format, vous voyez,
tout ce qu'il ne faut pas faire.
Le livre est assez petit, moi j'appelle ça le format WC, parce que vous pouvez le lire aux toilettes et pendant 5 minutes ou des heures, c'est comme vous voulez. C'est un format assez plaisant à lire et en même temps, on a voulu le rendre proche aussi du public concerné, puisqu'on a aussi travaillé avec la fédération Prism, coupole d'associations LGBT en Wallonie. Et donc, on a réuni les publics concernés autour d'exemples médiatiques et on leur a demandé un peu leur avis, on leur a demandé de s'exprimer en tout cas sur les représentations qu'ils voyaient et sur ce que ça ce que la salle leur faisait, ce que ça évoquait dans leur vie, quelle place ont eu en tout cas telle ou telle représentation dans leur vie. Et donc ces témoignages sont un peu égrenés à travers la publication, et ça nous permettait aussi d'ancrer les choses dans des expériences concrètes.
Bonjour Noémie Chorer, tu es avec nous en visio à cause de contraintes d'emploi du temps et tu en es toute excusée. Au sein de Décadré, tu formes en communication inclusive, langage et visuel, et tu es responsable du projet de sensibilisation des médias aux thématiques LGBTIQ+.
Merci beaucoup pour l'invitation, je me réjouis d'être là, même si je ne suis là par écran, mais en tout cas ça me fait très plaisir. Merci aussi pour cette invitation, j'ai trouvé très intéressante les interventions précédentes. Donc moi, je travaille effectivement pour Décadré, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, donc une relativement jeune association. On est en fait un institut de recherche et de formation, ainsi qu'un laboratoire d'idées sur l'égalité dans les médias. Donc on travaille sur les questions de langue, d'image, les médias surtout type presse pour le moment. Avec trois pôles pour la presse, donc sur le sexisme, sur les violences sexistes et les questions LGBTIQ+. Et puis on a aussi fait une recherche exploratoire l'année passée et cette année sur la question plutôt des masculinités. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir travailler sur tout ce qui est représentation en fait, et de pouvoir participer à plus d'égalité.
Je vais poser un petit peu la même question qu'on a posée à Média Animation. Comment se porte le paysage médiatique suisse côté discrimination ?
La Suisse, je pense que ça peut être intéressant de revenir à la jeunesse du projet, peut-être pour mieux aussi pourquoi on a décidé de mener ce projet. Donc on travaille sur les questions LGBTIQ+, depuis fin 2020, mais par exemple sur les questions des violences sexistes depuis 2017. Et en fait, on avait donc cette expertise sur les questions des violences sexistes et du sexisme. Et puis, durant la pandémie, il y a eu justement des articles dans la presse qui étaient transphobes et putophobes. Et puis, on nous a demandé d'intervenir, vu qu'on avait déjà ce lien avec les médias, avec les journalistes. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de proposer carrément l'ouverture d'un projet dessus pour asseoir une expertise et surtout avoir un impact à plus long terme. Dans ce sens-là, ce qu'on peut dire, nous, on fait des veilles médiatiques donc sur une vingtaine de médias romans. Et ce qu'on voit, c'est que, je dirais, les principales écueils qu'on retrouve souvent, c'est, par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de sensationnalisme dans les titres et les chapeaux, chose que je sais qui peut ressortir beaucoup ailleurs. En Suisse romande, dans les médias qu'on étudie. Mais par contre, les quelques fois où ça va ressortir, ce sera toujours sur les questions trans. Donc on voit que par exemple, on peut dire en tout cas, les questions LGBTIQ+, peut-être qu'en moyenne, elles peuvent être traitées plus adéquatement. Mais si on s'intéresse un peu plus directement à certaines lettres de l'acronyme, on voit que ce n'est pas du tout égalitaire. On voit aussi qu'il y a très très peu de sujets sur les questions intersexes, par exemple. Et plus globalement, ce que je trouve important de dire, c'est, qui est aussi du coup une recommandation qu'on porte beaucoup, c'est qu'on a remarqué que pratiquement 70% des contenus, en fait, il n'y a pas de personnes LGBTIQ+, ou de personnes expertes de ces sujets qui sont interrogées, en fait. Donc, c'est vraiment les thématiques LGBTIQ+, elles sont traitées, mais il n'y a ni expertise ni parole de personnes concernées.
Sensibiliser les journalistes aux LGBTphobies, les former sur des traitements médiatiques plus justes, on l'a vu aussi avec la JL, c'est une piste pour lutter contre les LGBTphobies dans les médias. À Décadré, vous avez aussi développé une formation grand public, parler aux médias en confiance. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer cette formation ?
Je dirais deux choses. Enfin, une première, c'est aussi que du coup, on dit beaucoup aux journalistes comment il faudrait faire mieux. Mais on sait aussi plus globalement que souvent les journalistes travaillent quand même avec une source première, par exemple des communiqués de presse ou des interviews ou autres. Donc, on a eu cette idée aussi de travailler avec crée ces sources premières, par exemple les assos, mais aussi même la police dans les cas de violences sexistes. Et nous, dans cette idée-là aussi, plus globalement, de pouvoir aussi former les personnes qui ont envie d'être médiatisées, plus particulièrement les femmes et les personnes LGBTQ+. Donc parce que, on ne les voit pas beaucoup dans les médias. Numériquement, en Suisse, le dernier, par exemple, monitorage global des médias disait qu'il y avait 28% de femmes dans les médias. Donc, en fait, pour leur permettre d'avoir des meilleurs outils et donc d'être médiatisés, on propose ces formations en leur donnant aussi des conseils sur comment approcher les journalistes et aussi sur quelles sont la réalité du métier des journalistes pour pouvoir adapter son message et qu'à la fin, les journalistes puissent avoir un sujet médiatique qui fait sens selon leurs contraintes et les personnes qui sont dans les médias puissent avoir leur message pris en compte comme elles le souhaitent.
Quel est le dernier traitement médiatique qui vous a fait bondir à décadrer ? En fait, je pense concrètement à l'analyse du traitement médiatique que vous avez fait, de la décision de la Cour suprême britannique de trancher sur la définition du mot « femme », spécifiant qu'une femme est déterminée légalement par son sexe biologique. Ça a été quoi ce traitement médiatique qui s'est fait en Suisse romande ?
Alors voilà, il y a forcément des actualités internationales qui sont mises en avant et je dirais dans le climat actuel, il y a beaucoup d'actualités internationales qui sont mises en avant qui vont à l'encontre des droits des personnes trans aussi qui viennent des États-Unis. Et dans ce cas-là, effectivement, ça venait plutôt de Grande-Bretagne. On a choisi de montrer ça en avant parce que, en fait, il y a eu d'abord un article qui parlait de cette décision. On s'est dit, ça pourrait être un peu mieux traité, mais ensuite, il y en a eu plusieurs autres à chaque fois que les fédérations britanniques, du coup, prenaient des décisions en lien, changeaient souvent, en fait, leurs critères d'inclusion, si on peut. Et puis, on s'est dit, OK, ça risque d'être quelque chose qui va du coup revenir souvent dans l'actualité si à chaque fois qu'il y a une nouvelle fédération qui prend partie là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce décryptage, de dire, OK, il y a ce qui est dit dans les médias. Et surtout, là, il y avait beaucoup, du coup, qui étaient… il y avait peu de sources premières, disons, à part des communiqués et de presse plus lointain, vu que ce n'est pas un ancrage suisse. Et donc, de pouvoir dire, il y a cette actualité, apparemment, ça risque de revenir une actualité souvent, donc comment bien en parler, surtout que dans les premiers articles qui sont sortis dessus en Suisse, en fait, les personnes qui avaient la parole étaient majoritairement les associations anti-trans qui avaient porté ça auprès de la Cour suprême britannique. Et donc, de pouvoir avoir aussi d'autres paroles qui a été mise en avance, qui arrive un peu plus par la suite quand il y a eu justement les fédérations qui ont pris certaines mesures où du coup les associations de personnes trans majoritairement prenaient la parole pour dire leurs craintes liées aux discriminations. Donc c'était notre idée de faire ce décryptage basé sur une actualité pas locale mais qui en fait s'est retrouvée régulièrement depuis toutes les X semaines. Il y a des nouveaux articles qui sortent sur ces questions à chaque fois. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe en Grande-Bretagne.
Les outils que vous avez fabriqués, il y a aussi des quiz en ligne pour développer ces réflexes. On invite le public, les auditoristes à tester, après cette table ronde, le quiz « Chercher les biais médiatiques sur les thématiques LGBTIQ+, pour voir si vous avez tout juste. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans 2 minutes, après le titre « Here the date is approved » du compositeur Henry Purcell, interprété à la voix par Virgile Pellerin, chanteuse lyrique contre-ténor.
The date is approved. Here, the date is approved. The God of Moses, the God of God. Here, the date is approved. To see what they
C'est une première question, mais qui est peut-être plutôt de l'ordre de la réflexion, qui découle aussi de la formation de ce matin. C'est comment, au vu de la montée de l'extrême droite, qui s'immisce un peu dans différentes instances, qui finance notamment nos radios locales, on est beaucoup dépendants, dépendantes des financements de l'État, des régions, des départements, des communes, qui pour l'instant nous garantissaient une certaine liberté, une certaine indépendance. Avec cette montée, cette pression, ben, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de muselage qui peut se présager. Et du coup, quand on parle de traitement des questions queer ou autres, ça peut être de parler du racisme, ça peut être de parler d'autres sujets politiques, eh bien, il y a déjà eu des actes de pression. Comment nous, en tant que radio, résister à ce muselage et pouvoir traiter une information, un fait de société ?
Laura Touni de la JL, je crois que vous avez davantage les réponses que nous, hein, en local. Je pense que déjà, une des réponses passe par la médiatisation de ces tentatives de muselage, c'est-à-dire se tourner vers des associations comme nous pour... réfléchir à médiatiser des cas de tentatives de censure de la part d'un éventuel mécène, on va dire, local. Je pense que ça passe aussi par le fait de repenser sa gouvernance et comment trouver, par exemple, une forme de scope pour financer en interne un média, une association. Je sais qu'au Monde, par exemple, la société des rédacteurs fait partie des actionnaires du journal, que les actionnaires principaux n'ont pas le droit de vendre des parts sans en référer à la société des rédacteurs et aux lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs aussi sont actionnaires. Après, il y a des médias qui sont encore plus indépendants que Le Monde et qui ont des modèles qui les protègent totalement de toute OPA de la part d'un actionnaire. Donc, je n'ai pas forcément de réponse à ça. Je pense qu'on est dans un temps, effectivement, d'extrême droitisation des esprits, dans un
on
temps...
On peut parler aussi des procès-baillons.
Street Press fait l'objet de nombreux procès-baillons, par exemple, de la part de personnalités d'extrême droite qui intentent des procès afin de ruiner ces médias pour que ces médias ne puissent plus exercer leur action. Par exemple, pour Street Press, je crois que c'est de l'ordre de 150 000 euros par an en frais de justice parce que ce média est attaqué par des entités d'extrême droite. Et pour répondre, Street Press a lancé un appel aux dons vis-à-vis de ses lecteurs pour pouvoir être davantage indépendant et pouvoir résister à cette fascisation des esprits et à ces secousses, on va dire, judiciaires. Donc, je pense qu'il faut regarder autour de soi comment font celles qui résistent. Moi, j'ai pas de réponse clé en main par rapport à ça, mais je pense qu'effectivement, le fait de se rendre indépendant par rapport à ces lieux de pouvoir, ça peut être intéressant. Mais je pense que tu as peut-être plus de réponses que moi en local sur comment faire.
Média animation, SOS homophobie et décadré là-dessus sur comment résister au muselage de la presse.
Oui, pour un peu compléter les propos, je pense que on peut aussi dire que continuer de produire du contenu de qualité, c'est très important. Tout ce qui est en face, on a beaucoup de désinformation, de fake news, de fausses vérités, etc., qui du coup dégradent la qualité du débat. Et la force qu'ont certains médias, c'est de produire vraiment du contenu de qualité avec les bons et les bonnes invités. Et derrière, y a un public aussi qui est en attente d'avoir du contenu de qualité et pas du contenu d'extrême droite. Et donc ça, je pense que ça peut aussi être un réel levier de continuer à produire quelque chose de qualité.
Et décadrer ?
Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, nous on voit aussi avec des disparitions de médias et de journaux en Suisse romande qui appauvrit en fait, le paysage médiatique. Je pense que quelque chose qui peut aider, c'est d'essayer de passer par d'autres vies. Je pense que le dire aussi, mettre en avant les difficultés d'exister dans un tel paysage médiatique et avec de telles restrictions financières ou alors plutôt avec de l'argent qui appartient à des personnes qui vont ensuite changer la ligne éditoriale ou la limiter, la censurer, ça peut être intéressant. Je pense qu'effectivement, malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse miracle. En tout cas, je ne l'ai pas non plus. J'ai l'impression que ça peut être aussi fait au niveau local, voir est-ce qu'il y aurait d'autres formes de soutien. Je sais qu'ici, en Suisse, il y a des fondations qui ont décidé pour essayer de contrer toutes ces fermetures de médias, à les soutenir, mais plutôt par exemple pour l'éducation aux médias que pour en soi vraiment le contenu médiatique. Pour garder aussi cette forme de liberté et essayer de creuser ça.
Pour vraiment revenir aux LGBT-phobie, pour comprendre un petit peu dans quel cadre légal vous évoluez chaque association dans vos pays respectifs, on va reprendre vraiment par la base de la base. Donc en France, en Belgique et en Suisse, est-ce que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont retenus comme des critères de discrimination ?
Oui.
Oui, en France.
Oui, en Belgique aussi.
En Suisse, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où il y aura pour tout ce qui est injure et autres une forme de discrimination. Mais par exemple, on a une loi contre le racisme et contre l'homophobie. En fait, cette loi sur le racisme date d'il y a très longtemps. L'ajout du critère de discrimination lié à l'homophobie s'est rajouté il y a environ 5 ans. Et au moment de la discussion sur la loi, il a été décidé par le Conseil fédéral en Suisse, donc l'organe, de ne pas rajouter les questions de transphobie qui n'étaient pas assez claires, je mets des guillemets pour les personnes qui ne me voient pas. Donc aujourd'hui, l'homophobie est protégée par la transphobie, il n'y a pas vraiment non plus de questions de protection sur l'intersexuation. Et en plus, cette loi est assez restrictive, c'est s'il y a des insultes ou des appels à la haine en public. Mais voilà, donc il y a une petite protection, mais pas autant que dans d'autres pays.
En France, il y a une loi sur la liberté de la presse qui va distinguer et sanctionner les propos discriminatoires. Est-ce que les lois autour de la liberté de la presse, elles ont prévu quelque chose là-dessus, sur les propos discriminatoires ? Parce que, on va parler aussi des autorités qui régulent ou pas dans vos pays respectifs, mais déjà, est-ce que dans la loi... il y a quelque chose.
Laura Touni pour l'AJL. En France, donc on a dit tout à l'heure, les propos discriminatoires pour l'identité de genre et l'orientation sont punis par le code pénal jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. La loi de la liberté de la presse de 1881 a été enrichie en 2004 de sanctions pénales contre les personnes provoquant à la haine, à la violence, à la discrimination. Donc c'est puni jusqu'à 45 000 euros d'amende. Mais dans les faits, ça n'est pas toujours appliqué, car il y a une espèce de... Enfin, au regard, en tout cas, de la justice, il y a une frontière ténue entre la liberté d'opinion, d'expression et les discriminations. Je pense, par exemple... à l'exemple de Minute qui avait été condamnée en 2014 pour des propos homophobes. C'est assez rare en vérité que des médias soient condamnés pour des propos discriminatoires. On a une instance qui s'appelle l'ARCOM. En tout cas, c'est pas appliqué de manière extrêmement dure en France. D'où aussi notre rôle de vigie dans ces cas-là.
Il y a des avancées législatives là-dessus, mais ça repose encore beaucoup sur la société civile en France. Est-ce que en Belgique et en Suisse, il y a quelque chose à votre connaissance sur le cadrage un peu de la liberté de la presse concernant les propos discriminatoires ?
Donc en Belgique, il y a donc différents moyens en fait de saisir un peu l'appareil législatif. C'est en fonction pour la thématique qui nous concerne aujourd'hui s'il s'agit d'une discrimination liée à l'identité de genre. Ou lié à l'orientation sexuelle, en fait. C'est deux organismes différents. Donc, le premier, c'est pour c'est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et le deuxième, qui s'intéresse du coup aux discriminations de genre, d'identité de genre. Et donc, par exemple, pour les propos transphobes, c'est l'organisme qui va être qui va notamment prendre position et en tout cas conseiller. Conseiller dans la prise de position. Et de l'autre côté, il y a UNIA qui est l'organisme qui lutte contre les discriminations, notamment discriminations racistes, sexistes. Non, sexiste, du coup, une discrimination de genre, donc c'est pas ça. Mais pour tout ce qui est de discrimination sur l'orientation sexuelle des personnes, c'est UNIA. C'est les deux organismes qui vont être sollicités, notamment en termes pour conseiller le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui, lui, a pour un pouvoir de régulation.
Donc, l'équivalent de l'ARCOM en France.
Voilà. C'est assez intéressant. Il y a dans la Constitution la liberté de presse et ensuite tout ce qui va être des propos discriminatoires va être plus large. Ça ne va pas cibler que la presse. C'est de nouveau, s'il y a des insultes, s'il y a des atteintes à l'honneur, etc., ça rentre aussi dans le cadre de si ça apparaît dans un média, dans la presse. Et donc ça peut être utilisé ces lois-là ou la loi que je citais avant sur contre l'homophobie. On a aussi le Conseil suisse de la presse, c'est vrai que sur qui peut être qui on peut dire s'il y a eu un propos discriminatoire ou autre. C'est vrai que j'ai été revoir un peu sur leur site avant cette table ronde.
Ils sont en train de mourir financièrement, je crois, parce qu'ils sont financés par les médias. Il y a des coupes budgétaires en cours.
C'est un peu pareil en Belgique.
C'est un peu pareil en Belgique, ouais.
Oui, les financements, notamment de l'UNIA, ont drastiquement baissé cette année. Et ça met un peu à mal le suivi des plaintes, évidemment.
Là où, au moins ça, encore en France, même si les questions de budget à la baisse sont toujours en vue, mais l'ARCOM est une autorité indépendante, donc elle dépend à 99% des subventions de l'État, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Il faut savoir aussi qu'en tant que société civile, en tant que personne physique, on peut saisir l'ARCOM, en tout cas en France. Ça vous est arrivé d'ailleurs de saisir l'ARCOM? Quelles sont les suites données à ces signalements?
Pour la JL, en France, ça nous arrive régulièrement de saisir l'ARCOM sur des séquences, par exemple, que l'on voit passer à la télévision ou à la radio, des séquences qui sont LGBT-phobes. La réaction de cette autorité va dépendre aussi de la multiplication des signalements sur un événement. Donc c'est pas forcément parce que nous, en tant que personne morale, l'association des journalistes LGBTQIA+, on l'a saisie qu'elle va répondre plus fort. C'est vraiment le nombre de saisines qui va enclencher la réponse. Donc par exemple, ça peut être une séquence sans maîtrise de l'antenne, comme celle où des militantes transphobes humiliaient une femme transgenre sur un plateau de télévision en lui demandant si elle avait un pénis, enfin bon, ce genre de séquence. Et il y a une gradation dans la réponse de l'ARCOM. Ça peut passer par des signalements, des mises en demeure et à l'autre extrémité des amendes, mais c'est quand même extrêmement rare. C'est une instance qui n'est pas très très proactive.
Pour les autres associations, est-ce que ça vous est arrivé de saisir donc ces structures
Oui, pour SOS Homophobie, ça nous arrive régulièrement aussi de saisir l'ARCOM, en plus de porter plainte.
Et quelles sont les suites données de l'ARCOM par rapport à vos...
Ça dépend. Comme ça a été dit, ça dépend vraiment des cas.
Est-ce que décadrer ou que Média Animation, vous êtes peut-être moins sur ce volet-là de plaidoyer et vous outillez plutôt les professionnels, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
On invite les gens à le faire.
Voilà, ça passe aussi par ça, de dire aux gens, bah, vous pouvez le faire, allez sur le site internet, faites la démarche. Dès que vous entendez un propos discriminatoire, c'est possible de le signaler. Et plus il y a des signalements, plus c'est pris en compte. C'est un peu la même chose sur les plateformes en ligne.
Oui, c'est ça, oui. C'est un peu le réflexe à avoir sur les réseaux sociaux notamment. Signaler le moindre comportement problématique du point de vue des discriminations, ça c'est vraiment quelque chose qu'on encourage souvent. En tout cas, on sensibilise notre public à le faire parce que c'est un outil, un levier. Qui est présent, et qui permet aussi de donner plus de visibilité au problème auprès des plateformes et des producteurs de médias aussi. Donc, même si ça n'aboutit pas, ça offre en tout cas une certaine visibilité du problème et avec l'objectif que, avec en tête le fait que en Europe, notamment pour ce qui est des réseaux sociaux, le DSA prévoit, ce qui est le règlement européen des services.
Oui, le Digital Service Act, donc le DSA.
Donc il y a de réels enjeux depuis l'entrée en application du DSA en 2024. D'ici, mettre ou pas les plateformes.
Donc pour rappel, juste, c'est un règlement de l'Union européenne qui vise à réglementer les plateformes en ligne. Il y a eu des discussions en Suisse aussi sur une réglementation des plateformes en ligne, mais ça n'a pas abouti. Et pour l'instant, en tout cas en Suisse, vous n'êtes pas concerné encore par une réglementation des plateformes. SOS Homophobie, on peut préciser, vous intervenez en milieu scolaire, mais est-ce que vous formez aussi des adultes et des professionnels ?
Oui, on fait également en plus des interventions au lycée, au collège, en enseignement supérieur, des formations pour les professionnels. Selon qui nous invite, on vient. Dans la délégation, on n'a pas formé des journalistes récemment, mais ça peut. Enfin voilà, s'il y a des journalistes qui veulent être formés, on peut également être invité.
Donc, quand on parle de formation, donc c'est une des pistes d'action hein, pour lutter contre les LGBT-phobies dans les médias. Qu'est-ce qui fait que y a des loupés entre les bonnes pratiques déjà, enfin, ok, il y a des kits, vous intervenez dans les établissements d'enseignement, dans les rédactions. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, il y a des difficultés dans la pratique, dans le quotidien de la profession de journaliste qu'est-ce qui fait que ça persiste en fait, ces LGBT-phobies dans les médias ? Est-ce qu'il y a des problèmes structurels ?
Alors, je pense qu'on peut parler de la recherche du buzz, vraiment les titres qui font peur. On a parlé tout à l'heure du sujet des enfants qui sont vraiment au cœur de nombreux sujets de LGBT-phobie, la protection des enfants, etc. Certains médias cherchent vraiment à créer de la peur chez les lecteurs, les lectrices, et du coup. Au détriment des personnes LGBTI.
Créer de l'audimat, en fait.
Exactement.
Qui génère des vues sur des contenus publicitaires.
Voilà. On peut parler de monétisation de la haine qui pose vraiment des problèmes après pour les personnes LGBTI qui subissent les discriminations, soit directement parce qu'elles écoutent des propos complètement discriminatoires, donc elles les subissent directement, ou alors indirectement quand les personnes qui les écoutent après reproduisent toutes les discriminations, que ce soit par de la diffamation, des coups, des agressions, etc.
Donc, Laura de la JL, pour moi, il y a un petit peu deux principaux cas, on va dire. Il y a des médias qui sciemment entretiennent cette extrême droitisation des esprits. On pense bien évidemment aux médias de la sphère Bolloré qui s'est étendue à coups de rachat et qui a un agenda politique, c'est-à-dire propager des idées d'extrême droite, des idées ultra-conservatrices, notamment sur nos sujets LGBTQIA+, mais aussi en termes de racisme et de sexisme. Des médias qui veulent créer le buzz, comme Hugo le disait, et qui vont surfer sur ces peur. Et puis, il y a certains médias qui veulent bien faire, mais sont encore extrêmement maladroits. Et c'est là où on pense qu'on a encore une prise et où on peut dialoguer. Pourquoi ? Bah parce que déjà, il y a certaines générations de journalistes qui n'ont pas été formées à ces questions. Nous, on ne peut pas former tout le monde en France, par exemple. On est 200 bénévoles, donc ce n'est pas énorme pour toutes les écoles en France. Donc, il y a une tradition aussi de peu d'intérêt autour de ces questions. On va dire que ça concerne les marges. On me l'a déjà dit en rédaction, hein, c'est marginal, ça concerne les marges, on s'y intéresse pas. Donc, ce désintérêt va créer aussi un désintérêt pour les bons outils, le bon vocabulaire, la bonne façon de parler des choses. On a aussi des interlocuteurs qu'appellent régulièrement les journalistes. Tout à l'heure, Noémie en parlait, notamment la police, qui n'est pas formée ou qui ne veut pas être formée et qui propage des fausses informations. Donc ça va être dire que un travesti s'est fait tabasser alors que c'est une femme trans. Il découvre qu'elle est trans et la tabasse à mort, comme si c'était légitime de tabasser à mort une femme trans du fait de son identité. Donc toutes ces interactions vont créer aussi des fausses informations. Et puis il y a aussi une forme de diabolisation des personnes LGBTI qui nous vient beaucoup du Royaume-Uni et des États-Unis et qui s'est propagée en France parce que déjà ça fait de l'audience à peu de frais, c'est ce que disait Hugo. Et pour l'extrême droite aussi, pour les personnalités politiques, c'est de l'électorat à peu de frais. Créer un bon programme économique, c'est quelque chose de compliqué. Taper sur les minorités, c'est quelque chose d'extrêmement simple, gratuit, ça coûte pas cher et puis ça marche bien. Pointer du doigt les personnes LGBTI, les immigrés, enfin les personnes en situation d'exil pour dire c'est nos problèmes, nos maux viennent de ces personnes. Du coup, on va répandre une parole, des éléments de langage qui peut un peu s'installer dans le débat public. Et lorsqu'on a une paresse intellectuelle en tant que journaliste, qu'on ne vient pas chercher la source de ces éléments de langage, qu'on répand ces éléments de langage, eh bien on diffuse des idées et on est soi-même coupable de cette diffusion. On a une immense responsabilité en tant que journaliste pour la formation des esprits, pour la formation des citoyens, des citoyennes. Et c'est à nous d'aller creuser de ce côté. Donc, je dirais qu'il y a aussi parfois une forme de paresse intellectuelle de la part de journalistes qui aussi vont être interpellés par des organismes qui se présentent comme des chercheuses qui n'en sont pas. Je pense à l'Observatoire de la Petite Sirène. Ce sont deux femmes transphobes qui répandent des fausses informations sur les mineurs trans. Et comme elles se présentent comme une association ayant soi-disant pignon sur rue, elles sont reprises par certains médias, surtout très, 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 très à droite. Certains journalistes ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez pour savoir d'où ça vient.
D'autres réactions ?
Une raison à ce manque d'efficacité parfois de nos tentatives de ramener un traitement plus juste et vis-à-vis des personnes LGBTQIA+. Je situe plutôt les choses aussi, en effet, dans un défaut structurel, mais qui concerne plus globalement l'univers médiatique dans lequel on baigne, c'est-à-dire un univers médiatique qui est sous le joug de ce qu'on appelle une économie de l'attention. Ce sont des médias, ce sont des réseaux sociaux qui se battent et qui monétisent notre attention, nos données personnelles aussi, pour nous vendre certains contenus. Et cette économie de l'attention impacte évidemment parfois la qualité du journalistique, impacte le phrasé des titres qui doit évidemment nous accrocher et nous inciter à cliquer, à aller plus loin. C'est un peu des titres qui se mettent à être vendus comme des marchandises à travers un flux dans lesquels il côtoie effectivement d'autres publicités. Dans cet environnement, je veux dire, médiatique, où les journalistes sont aussi pressés de devoir produire des contenus, des articles qui puissent être intéressants pour le public et engageants surtout, puisque c'est surtout ça qui fait la valeur des posts, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est un contenu engageant, ça ne veut pas dire que c'est un contenu juste et informé. C'est juste un contenu qui génère des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. Et en effet, je pense que ouais, cette ambiance médiatique et cette dynamique structurelle des réseaux sociaux notamment, cette économie de l'attention, va du coup impacter beaucoup les priorités des journalistes, les priorités que les journalistes mettent.
Oui, l'économie d'attention qui pour l'instant est compliquée à réguler. Hein. D'où l'importance aussi d'agir auprès des jeunes au travers d'actions d'éducation aux médias que vous faites les uns et les autres. Quel rôle peut avoir l'éducation par rapport aux LGBT-phobies dans les médias ?
Donc Laura de l'AJL, je pense que c'est extrêmement important. Moi j'ai été aussi bénévole pour... Entre les lignes, qui intervient donc en collège et lycée pour faire de l'éducation aux médias, où on se rend compte que, bon, on en parlait tout à l'heure avec Hugo, il y a toute une partie des parents d'élèves qui désormais sont extrêmement réfractaires à ce que leurs enfants puissent parler des questions LGBTI à l'école. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve complètement, complètement fou. Et puis, on a aussi des personnes, des publics qui, en face de nous, j'ai pas envie de verser dans les clichés, hein, c'est-à-dire que toutes les générations sont bêtes les unes après les autres, il n'y en a pas une qui est plus bête que l'autre, mais des personnes qui sont confrontées à l'extrême viralité de fausses informations, de théories du complot, qui ne s'informent entre guillemets plus que par TikTok ou par Insta. Y a aussi des bonnes choses sur TikTok et Insta, mais c'est à nous aussi de leur montrer le chemin, je pense. Et si on n'est pas présent sur cette éducation, si on n'est pas présent aussi sur ces réseaux, je pense, on les perd quelque part. Il y a aussi une espèce d'air de la post-réalité. C'est un peu Donald Trump qui a mis ça en place. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout ce qui est dit, tout ce qui est affirmé, y compris par des médias très sérieux, est potentiellement faux aux yeux de certains. Et c'est ubuesque, en fait, de parler avec des personnes jeunes qui remettent en cause, y compris des médias très sérieux. Donc, je pense que c'est très important d'avoir ce dialogue-là. Une fois de plus, j'ai pas envie de pointer du doigt une génération par rapport à une autre. Je pense qu'on a tous nos défauts. Mais ça me paraît extrêmement, extrêmement... majeur. Peut-être que Hugo aussi a des choses à dire sur les interventions auprès des jeunes. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure.
Oui, donc nous, les interventions qu'on fait auprès des jeunes, elles ne sont pas basées sur l'éducation aux médias, mais vraiment sur le sexisme et les LGBTI-phobies. Et vraiment, c'est des interventions qui sont assez simples. On vient pas du tout, comme on nous le reproche souvent, faire de la propagande, etc. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur expliquer ce que sont les discriminations, qui est-ce qui en subit, qui est-ce qui en produit et quelles conséquences elles peuvent avoir sur les victimes. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tant que victime ? Parce qu'on se rend compte que c'est des sujets que les élèves ont déjà entendus. C'est rare que quand on est face à des élèves, les sujets de transidentité, les sujets d'homosexualité, de bisexualité, etc. Soient inconnus. Mais par contre, quelles sont les réalités d'une personne trans, quelles sont les discriminations que peuvent subir les personnes trans, etc. Là, soit on n'y connaît rien du tout, soit on a des idées complètement discriminatoires. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces interventions-là, c'est vraiment pour informer sur les réalités que vivent les personnes LGBTI, avec deux objectifs principaux. Le premier, que les personnes concernées dans les classes, parce qu'il y en a des élèves LGBTI, il y en a, que ces élèves-là sachent qu'ils et elles ne sont pas seuls et que voilà, ils vont pouvoir évoluer dans une société dans laquelle ils sont pas seuls. Et le deuxième objectif, c'est de créer des alliés, en fait, que les personnes qui ne soient pas concernées directement par ces sujets-là puissent accueillir un coming out, puissent avoir un regard bienveillant vers les autres élèves, etc.
Noémie ou Chloé, par rapport à, au rôle de l'éducation média pour lutter contre les LGBT-phobies dans les médias?
Nous, à plusieurs niveaux, le projet que Décadré mène sur la sensibilisation des médias aux thématiques LGBTQ+, est fait en partenariat avec la Fédération Genevoise des associations LGBTQ, fait le même type d'intervention qui a été présentée là par SOS Homophobie. Donc aussi, voilà, cette idée d'aller dans les classes pour lutter contre les discriminations. Ce que ce partenaire de projet voit beaucoup aussi, c'est que ce qu'on voit un peu dans les médias après ressort en partie dans les classes. Par exemple, souvent, il y a une méconnaissance des questions intersexes et aussi des choses qui sont dites, par exemple, sur les questions de transidentité selon un peu les derniers buzz qu'on a effectivement pu voir dans les médias. Nous, on essaye aussi d'aller dans les écoles, les élèves du secondaire pour la Suisse, donc en 12 et 17 ans environ. Mais c'est vrai que, par exemple, on a un atelier sur le sexisme, mais pas sur le sexisme dans les médias. On parle justement du manque de représentation des femmes, mais on ne parle pas des questions LGBTQ+, dans ce cadre-là aussi. On essaye plutôt de dire, ce qui rejoint un peu ce que Laura présentait, d'essayer de sensibiliser aussi le grand public en étant présente sur les réseaux sociaux, en proposant des contenus alternatifs. Et puis, on essaie aussi de faire de la prévention dans les groupes de jeunes des associations LGBTQ+, de Suisse romande, en essayant justement de discuter, de travailler sur cet esprit critique, de savoir... d'où viennent les news et comment y faire face.
Moi, par ailleurs, je forme aussi les enseignants. Ce que je vois dans les formations enseignants et l'intérêt de l'éducation média pour aborder les thématiques LGBTQIA+, ce que je vois vraiment, c'est qu'on aborde des objets de pop culture, les séries, ce qu'on voit au cinéma, les jeux vidéo, et afin d'analyser à travers eux les stéréotypes, notamment les représentations en tout cas de la société qui y sont faites, pour mieux les questionner ensemble. Donc c'est un peu une façon, l'éducation média, d'aborder le problème de façon parfois détournée. Et certains profs me disent que souvent ils ont du mal à aborder les notions de genre avec leur classe frontalement. Je pense que à travers, par exemple, l'analyse de médias, notamment des médias de pop culture, des médias que parfois on n'interroge pas forcément, on regarde un peu sa série le soir en mettant notre cerveau off. Les médias de pop culture justement sont vecteurs de beaucoup de normes et font aussi évoluer les normes. Et donc je trouve que c'est ce différentiel est intéressant à explorer avec les jeunes et avec les profs aussi, mais c'est une façon aussi de voir de se questionner sur où on est la société vis-à-vis des rôles genrés au cinéma. Est-ce que les représentations des personnages masculins et féminins évoluent?
Et l'importance aussi d'avoir des rôles modèles, tu en parlais ce matin,
c'est ça, oui.
en formation.
Et d'évoquer, de questionner les points de vue qui sont pris sur un film qui relate le parcours d'une personne trans. Quel est le point de vue adopté? Qu'est-ce que ça questionne? Quel est le public supposé de ce film? À quoi est-ce qu'on le voit? Donc c'est une façon de décortiquer un média et de questionner justement le regard normé que la société nous transmet.
On arrive tout doucement, mais sûrement, vers la fin de l'émission. Donc la JL a aussi une charte contre les LGBT-phobies. Il y a aussi une autre charte en France de l'autre cercle qui vise à promouvoir l'inclusion des personnes LGBTQIA+ dans le monde du travail, et donc notamment aussi dans les rédactions de presse. Est-ce que les chartes, c'est aussi un outil pour lutter contre les LGBT-phobies? Notamment, la question, là, elle peut revenir dans le débat public en ce moment, parce que Emmanuel Macron a émis l'idée d'une labellisation des médias, qui a soulevé un tollé chez Rassemblement National des Républicains et globalement dans le groupe de médias Bolloré. Est-ce que, par exemple, ces chartes, ça peut être une solution? Et aussi le plaidoyer auprès des élus pour faire avancer la loi ou l'application de la loi?
Du côté de la JL, effectivement, en France, on a une charte qui est signée par une cinquantaine de médias qui s'engage en la signant à traiter équitablement les personnes LGBTQIA+, à garantir un traitement juste et respectueux des personnes trans, à rendre compte de la diversité des communautés, à assurer l'égalité entre tous les collaboratrices au sein de la rédaction, parce qu'on n'a pas parlé aussi des journalistes en rédaction. Donc en fait, la charte, c'est un peu un vœu pieux si derrière on ne fait pas de la police, on va dire, en quelque sorte. Donc le fait qu'un média ait signé une charte, ça nous permet aussi de mettre ce média un peu au pied du mur si on le prend sur le fait d'un traitement stigmatisant. C'est-à-dire, vous avez signé notre charte et vous avez, par exemple, un traitement stigmatisant des hommes gays victimes de guet-apens homophobes. Ça, c'est un fait divers qui revient très souvent. Malheureusement, il y a une épidémie de guet-apens vis-à-vis des hommes gays et les médias en parlent très peu et très mal. Voilà, on peut les prendre un petit peu par le col en disant « Tiens, vous avez signé notre charte et vous écrivez comme ça pour faire le buzz. Quel est votre problème ?» On a par exemple SoFoot qui était un des signataires et qui a publié une enquête sur l'éloge du chant homophobe en stade. Enfin, c'était incroyable. À la fois, SoFoot peut faire des choses assez avancées, un peu plus progressistes, à la fois des choses traditionnalistes, pour le moins. Et donc là, on peut les attraper par le col et dire « Bon, bah... vous ne pouvez plus être signataire si vous continuez de proposer de tels contenus. » Après, moi, je ne suis pas sûre que l'on veuille une charte qui soit encadrée par le gouvernement, parce qu'on ne sait pas de quel côté peut basculer le gouvernement d'ici quelques années. Mais je ne pense pas non plus qu'il faut mettre fin à l'ARCOM ni privatiser l'ARCOM comme ce que disait Marine Le Pen. Je pense que c'est important d'avoir un organisme indépendant. Je pense aussi qu'il faudrait renforcer le conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, qui pour l'instant rend des avis. Enfin, c'est pas vraiment très intéressant. Quand on regarde l'ordre des médecins, il a un rôle un tout petit peu plus avancé, c'est-à-dire vraiment un organisme de régulation de l'éthique journalistique.
Je n'ai pas comme ça à ma connaissance d'exemple où une charte ou un engagement a été signé et mené à bien ou pas. Par contre, peut-être l'exemple que j'évoquais tout à l'heure concernant le sketch du Grand Cactus qui parodie donc une chanson de Indochine, Le Troisième Sexe, en version Le 128e Sexe, je crois, quelque chose comme ça. Il s'agit de se moquer en somme des identités non-binaires et trans. Donc dans ce sketch du Grand Cactus qui s'inscrit vraiment dans un discours transphobe, qui a été donc diffusé par une chaîne publique. Il y avait beaucoup de plaintes des téléspectatrices qui ont été déposées auprès du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc l'organe de régulation, qui a ensuite traité la plainte, mais en jugeant qu'elle n'était pas recevable parce que il s'agissait d'un contexte satirique. Voilà, ça c'est un exemple un peu qui montre que c'est un exemple qui n'a pas forcément abouti à une régulation, à une sanction. Par contre, le CSA a demandé à la RTBF de faire plus attention à l'avenir et de mettre en place en fait des choses en interne et de montrer qu'elle le fait. Et notamment, ben, elle a commandé des formations LGBT, phobie, médias et société auprès des journalistes qui étaient qui sont des journalistes volontaires. Donc on voit ici que il y a des réactions, il y a des mises en place qui sont de choses qui il y a la mise en place de certains dispositifs pour régler les choses au sein du média public, mais ce n'est pas quelque chose qui est non plus une politique ferme vis-à-vis de ces médias. Je veux dire, on n'a pas eu l'équipe du Grand Cactus en formation, quoi.
Nous, on n'a pas à SOS Homophobie de chartes que l'on fait signer aux différentes personnes avec lesquelles on travaille. Par contre, notre objet de plaidoyer politique, c'est le rapport sur les LGBTI-phobies qu'on sort chaque année. C'est un rapport qui est issu des témoignages que l'on reçoit des victimes et des témoins sur un an et aussi des faits marquants de l'année. Et donc c'est un peu une capture d'écran de tout ce dont on a eu écho en un an sur la thématique des LGBTI-phobies. Et donc c'est un rapport qu'on essaie de visibiliser le plus possible.
L'importance d'observer en fait déjà.
Exactement, parce que souvent ce qu'on entend, que ce soit dans nos interventions en milieu scolaire ou même dans des discussions, c'est que les LGBTI-phobies n'existent plus ou alors existent beaucoup moins. Alors quand on lit le rapport que l'on édite, en fait on se rend compte que c'est pas du tout vrai. Et donc voilà, ça c'est vraiment notre objet politique pour dire... lisez les témoignages qui sont dans cet objet. Il y a des témoignages vraiment de situations terrifiantes. Les LGBTI-phobies sont encore un énorme problème en France. Et on essaie, nous, de les observer et après de les visibiliser pour que justement on puisse en parler et après essayer de chercher des outils pour lutter contre. Et un des gros sujets quand on sort ce rapport et quand on discute avec des journalistes, c'est alors, est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a baissé les LGBTI-phobies ? On revient un peu au sujet du buzz, parce que voilà, je pense qu'un titre, les LGBTI-phobies ont énormément augmenté cette année, ça fait un peu plus cliquer. Nous, c'est pas un rapport qui se veut même exhaustif, donc en fait, on veut pas répondre à cette question de l'augmentation et du nombre ou de la diminution du nombre de LGBTI-phobies, parce que en fait, c'est vraiment plus un rapport qualitatif qui permet de mesurer à quel point il y a encore des LGBTI-phobies et quelles formes elles peuvent prendre, sans par contre vouloir toutes les renseigner.
Avant de te donner la parole, Noémie, il y avait une réaction de Laura.
Oui, par rapport à ce rapport, qui est extrêmement intéressant, en fait, SOS Homophobie a montré qu'en 2024, la parole haineuse s'est fait entendre de manière absolument décomplexée et banalisée, et que ça s'est traduit par des violences physiques. En fait, il y a cette parole haineuse, elle entraîne une légitimation de l'action violente physique. C'est-à-dire que vous avez reçu 1571 témoignages de violence en 2024. Et nous, on pense qu'il faut agir en amont sur la parole elle-même, y compris dans les médias et sur les réseaux sociaux, parce que cette parole, qui pour certaines peut paraître banale et sans grande conséquence, a en réalité une conséquence sur une violence grandissante vis-à-vis des personnes. Donc c'est pour ça qu'on vous rejoint énormément dans vos conclusions et qu'on pense qu'il faut, agir ensemble pour faire baisser et cette parole et cette violence.
Noémie, sur les leviers d'action pour lutter contre les LGBTphobies dans les médias en Suisse ou par rapport à ce qui vient d'être dit ?
En Suisse non plus, il n'y a pas vraiment de charte sur les questions LGBTIQ+ dans les médias. Mais je pense que c'est une idée vraiment très intéressante et à creuser parce que, comme a dit Laura, ça permet vraiment d'interpeller les médias et leur dire, vous avez signé cette charte et vous avez fait ça. Par contre, nous, on essaie aussi de réfléchir au fait que chaque média a sa propre ligne éditoriale et un peu charte avec ce qui peut être utilisé ou non. Par exemple, nous, on a beaucoup de discussions avec des médias pour dire, par exemple, le pronom « iel » ne peut pas être utilisé dans la majorité des médias en Suisse. Et en fait, donc quand il y a une personne qui l'utilise, par exemple, il y a un portrait, alors souvent ça fait tout un encadré pour expliquer que du coup, voilà, exceptionnellement, ça va être utilisé pour juste respecter simplement l'identité d'une personne. Et donc, ce que je pense qui peut être aussi intéressant, ce serait d'essayer de travailler là-dessus, de pouvoir faire aussi que chaque média ait une ligne éditoriale peut-être aussi un peu plus ouverte aux questions LGBTQ+. Et pour rebondir aussi sur ce rapport de SOS homophobie, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour rendre visible, bien sûr, ce qui se passe. Et aussi parce que nous, en tout cas en Suisse, ce que les journalistes nous disent beaucoup, c'est un peu manquer de chiffres. Et je trouve que la sortie du rapport, ça crée une actualité qui permet aux journalistes d'en parler. Nous, on travaille beaucoup avec des médias d'actualité, donc il faut vraiment qu'il y ait une actualité pour pouvoir parler des thématiques LGBTQ+. Donc, ça permet cette actualité et en plus, ça permet d'avoir des chiffres dessus. Par exemple, en Suisse, il n'y a aucun chiffre sur les LGBTI-phobies au niveau national qui sont comptés. C'est un peu une des batailles des associations pour que ce soit fait, c'est en discussion. Mais pour l'instant, voilà, les chiffres qu'on a le plus, c'est parce que les fêtières des associations LGBTIQ+, au niveau national, ont une helpline en ligne et publient les résultats. Mais en fait, on n'a pas de vrai décompte plus précis que ça. Et donc, voilà, cette importance d'avoir des chiffres pour montrer, parce que malheureusement, il y a des personnes qui ont besoin de ces preuves-là, que oui, ça existe.
On arrive vers la fin, malheureusement, vraiment, de cette émission. On disait en off, ce serait chouette de faire un colloque européen sur ces questions pour voir comment mettre en œuvre tous ces outils de lutte contre les LGBT-phobies. C'était donc une table ronde média, quelle pratique pour des représentations justes et inclusives, regard croisé France, Belgique, Suisse. Nous espérons qu'elle aura pu nourrir votre réflexion, qu'elle vous aura donné des pistes d'action, quelles que soient les actions pour lesquelles vous auriez plus d'appétence, de facilité, car nous avons besoin d'une information libre, d'une libre circulation de l'information et d'une information libérée de préjugés, de stéréotypes et de discriminations. Merci encore mille fois à nos intervenantes. Laura Touny, coprésidente de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBTQIA+, et rédactrice en chef adjointe du site Le Monde. Noémie Schorer, responsable du projet de sensibilisation des médias aux thématiques LGBTQIQ+, de Décadré en Suisse romande. Chloé Trenfou, chargée de mission en éducation média de Média Animation Belgique francophone. Et Hugo Faure, délégué territorial Dauphiné Alpes Nord, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie de SOS Homophobie. Merci, à bientôt sur les ondes.